Bonjour, donc nous allons étudier la sikha du Kovetz aujourd'hui. C'est une sikha qui est dans Chelek Yutet, dans le côté Sikhot. C'est un Sium, Maseret Makot, qui a été dit Tafshin de Malef. Cette sikha reprend deux histoires qui ont eu lieu après le Khurban Beit HaMikdash avec Rabbi Akiva et ses amis, d'autres Tanaïm. On va faire un petit tour d'abord de la Sikha. La Sikha de ce Kovetz, elle est un peu longue. Certains passages, on va les faire oralement avec le temps que nous avons. Mais avant de commencer, on va faire un petit résumé de la sikha. Rabbi Akiva et ses amis vont aller vers Rome pour essayer de annuler des décrets. Comme ça, c'est marqué dans les messages. Et en avançant vers Rome, et qui sont déjà à un certain niveau assez proche, ils vont voir une grande réussite du bruit du monde à Rome. Lorsque, du côté du Beit HaMikdash, il y a un Khurban. Il y aura une réaction de la part des amis de Rabbi Akiva. On verra leur nom et on verra dans la sikha pourquoi ils ont été nommés et leur nom. Ils vont pleurer. Rabbi Akiva va leur demander pourquoi ils pleurent. Quand lui, il sourit, on peut dire qu'il rigole, il est joyeux. Et eux lui disent pourquoi est-ce que lui rigole. Et il leur donne une réponse. On va étudier dans la sikha. Cette réponse que lui leur amène, apparemment, ne le fait pas changer d'avis. La Gemara ramène une deuxième histoire, qui n'est pas sur le même endroit, ni sur le même lieu. C'est encore une fois les mêmes personnes qui se retrouvent autour du Beit HaMikdash. Et il voit que le Beit HaMikdash, bien sûr, est détruit. Il voit que du lieu du Kodesh HaKodashim, il y a un renard qui sort, Choual. Et là, encore une fois, on va retrouver les mêmes idées. Et il pleure, lui, il sourit. Il pose la question pourquoi il pleure, pourquoi il sourit. Et là, par contre, il leur apporte la réponse. Ils lui ont dit deux fois, Akiva Nihamtanu, Akiva Nihamtanu. Akiva, tu nous as consolés, Akiva, tu nous as consolés. Donc, il y a une dizaine de questions dans cette sikha sur ces deux histoires. Et bien sûr, c'est lié avec ce Shabbat, qui est Shabbat Nachamu, qui est le Shabbat de la consolation. La Haftara également va commencer par deux fois le mot Nachamu. Nachamu, Nachamu, a une double consolation. Voilà pourquoi cette sikha a été éditée pour Shabbat Nachamu. Qu'est-ce que c'est cette double consolation? Et dans cette sikha, on va revoir les deux histoires. On va étudier la différence entre les deux histoires, la différence de leur comportement, pourquoi certains pleurent et certains, Rabbi Akiva, ils sourient. C'est quoi la différence dans les deux épisodes, les deux histoires, au niveau du lieu? On va rentrer dans un petit passage de Halakha qui ferait une différence entre Rabbi Akiva et ses amis au niveau d'analyser le présent ou le futur, qu'est-ce qui est plus important, voir les choses comme elles sont maintenant ou voir les choses comme elles sont dans le futur. Et une deuxième différence au niveau des mitzvot, parce qu'une mitzvah est constituée de, on va donner un exemple, 5 détails, que ça vaut la peine de perdre un détail, et 5, pour pouvoir faire un hidour mitzvah. C'est un peu de mesurer le pour et le contre. Perdre quelque chose d'un côté pour gagner autre chose et plus de l'autre côté. C'est un sujet dans la Halakha et qui nous permettra de mieux comprendre les opinions de Rabbi Akiva et de ses amis. En tout cas, à la fin de la Sikha, on aura la réponse sur toutes ces questions. Il y a presque une dizaine de questions. On comprendra bien la différence entre la première histoire et la deuxième histoire. On comprendra bien aussi pourquoi dans la première histoire, ils n'ont pas changé d'avis. Ils n'ont pas reconnu l'opinion de Rabbi Akiva. Par contre, grâce à la deuxième histoire, ils ont oui rejoint l'opinion de Rabbi Akiva. Ils ont été remerciés sur cette consolation. Et ça nous permettra aussi de mieux comprendre ce sium, cette conclusion du traité Makot, et comprendre ce que c'est Nachamu Nachamu. Voilà, donc on va commencer la Sikha. Elle est dans le Kovet de cette semaine. Et la Sikha dans la page 7. Sikha, c'est dans la page 7 du Kovet. Donc, comme on a dit, la Sikha est un peu longue. On fera certains passages oralement. Je répète encore une fois le kitsour de la Sikha. C'est deux histoires qui se suivent dans Traité Makot. Une dizaine de questions sur les détails de l'histoire. Une différence entre Rabbi Akiva et ses amis au niveau de la Halakha. On reviendra grâce à ça pour répondre aux questions. Et on aura également appris un peu sur le principe du bien et du mal. Il faut y être ce qu'on appelle un mal pour un bien. La différence entre un mal dans un domaine pour obtenir un bien dans un autre. Bien la différence entre eux, dans le mal lui-même, il y a un bien qui va sortir de ça. Il y a des fois que le mal lui-même n'est plus un mal, mais il va se révéler que le mal, en fait, était du bien. Ça sera ça les grandes lignes qui ont permis à Rabbi Akiva d'expliquer à ses amis qu'est-ce que c'est vraiment les événements qu'ils ont vus de leurs yeux et comment est-ce que ça leur a permis d'être consolés sur la destruction du Beth Amidash et les événements qui ont suivi. En page 7 du Kovet, on va commencer la Sikha. Ita de Gemara. La Gemara est dit. Si on m'assert Makot à la fin du traité Makot. Koraya Rabban Gamil, Rabbi Lazar ben Azaïev, Rabbi Yeshua, Rabbi Akiva. Voilà les quatre Tanaïm. Rachim Bader, ils étaient en train d'aller dans le chemin vers Ron. En arrivant à un certain moment, Shamu Kol Amona Shel Rom, ils ont vu ce bruit de la grande quantité des gens qui étaient à Rom et leur réussite. Parta de Rachok, mais à 120 000. À 120 000. Centaines de kilomètres. Il trilo bochin, ils ont commencé à pleurer. Rabbi Akiva mesechek, Rabbi Akiva sourit. Amoulo, eux lui posent la question. Mipnema ata mesechek, pourquoi tu souris? Amalem, lui leur a dit, va atem mipnema ata bochin, et vous, pourquoi vous pleurez? Amoulenoudé à la Loukouchine, ces étrangers. Selon certaines versions, c'était bien marqué les Romains, mais on a changé à Kouchi dans la Gemara pour la censure. Chemishtachvim la Tavim ou Mekatrim la Vodat Kochavim des idolâtres. Le Chine Betach Vashket, ils sont ainsi dans le calme et la réussite. À nous, de notre côté, Betadom Raglevekin, le temple de Dieu Saroubèche est brûlé, Velo Nitke, on ne va pas pleurer. Amalène, il leur a répondu. Mais c'est pour ça, dit Messachek, c'est pour ça que moi je rigole. J'ai déjà pour ceux qui transgressent la volonté de Dieu, car voilà ce qui leur arrive. Et c'est retenant pour ceux qui font la volonté de Dieu, à la Hatkama Vakama, puis pas dans eux. Donc on résume la première histoire, ils vont vers Rome, ils voient la réussite de Rome. Eux pleurent, lui rigole. Lui demande la question, pourquoi tu rigoles? Lui demande pourquoi il pleure. Et eux, ils disent, comment eux réussissent et nous, on a le temple détruit? Et il leur répond, si eux, ils ont cette situation aujourd'hui, on peut s'imaginer ce qui nous attend. Donc, ils voient de leurs yeux un mal, car Rome réussit. Et lui, il dit, c'est vrai que c'est un mal. On peut apprendre de là et déduire de là qu'il y a un bien qui va nous arriver. Donc, de ce mal-là, il en déduit un bien. Chouba Marat, une autre fois, Yerushalayim, ils sont en direction de Yerushalayim. Ça arrive à ce film, de là, on voit le temple, car Obdem, des chèvres vêtements, comme le dîme le demande. De Rabat, ils arrivent à Rabat, et au choix, ils ont vu un renard qui sort de bête près du chèvre à Kodashim. Il tribue un bochim, et il pleure, il rigole. À mon opinion, matin, il serait pour faire tu rigoles. À mon opinion, il dit, matin, bochim, pourquoi vous pleurez? Amoulé, ils lui ont répondu, comme chez Katoubo, un verset sur lequel il est dit, Hazar, Akarev, Yumat, tout étranger qui approche le lieu du temple va mourir. Achar, Salim, Al-Khoubo, Volonifke. Là, un renard qui se promène, on ne va pas pleurer. Amoulé, il lui répond, Kachani, Moussachet. Il y a un verset dans Ishayahu. Le Dieu du prophète Ishayahu. Aïd Ali, je vais placer deux témoins, deux prophètes dans l'histoire, à deux moments différents. Un qui s'appelle Uriah Cohen et l'autre qui s'appelle Zechariah ben Yevachiyahu. Alors on pose la question, Maïnyan, pourquoi ces deux prophètes sont cités dans le même verset? Un prophétisait le premier temple et l'autre était là au deuxième temple. Là, Katoub Nevoato, Zechariah ben Nevoato, Shel Uriah. En fait, Dieu dit que la prophétie de l'un qui annonce la destruction, la prophétie du deuxième qui annonce la reconstruction, il est mis dans le même verset. Bori active la fin de la fin de Sion, ça dit Khavesh. Donc rien s'est marqué, à cause de vous, Sion, Yerushalayim sera labouré comme un champ, comme on laboure un champ. Donc rien s'est marqué un verset très positif. Alors, Dieu, vous viendront s'installer, Zekénim, parce que nous avons des vieux et des vieilles de Khavesh de Yerushalayim. Alors, il dit comme ça, Rabbi Akiva. Ah, ce Benitka, maintenant que j'ai pas vu se réaliser la première prophétie négative d'Uriah, je me disais peut-être la prophétie de Zechariah ne sera pas accomplie. Achav, je n'ai pas quand même une voix toche à l'Uriah. Maintenant que j'ai vu que la prophétie d'Uriah a été réalisée, c'est évident que la prophétie de Zechariah aussi positive va être réalisée. Ok. De la Shonazé, avec cette phrase-là, ils ont dit, Akiva, Nihantanu, Akiva, Nihantanu. Tu nous as consolés. Deux fois, ils l'ont répété. Donc, dans la deuxième histoire, ils sont en train d'arriver à Yerushalayim. Ils voient des renards qui sortent. Eux, ils pleurent. Lui, ils rigolent. Et ils lui posent la question, pourquoi tu rigoles? Ils posent la question, pourquoi ils pleurent? Et leur vie, il y a deux prophètes qui prophétisent quelque chose. Un qui prophétise la destruction jusqu'au point que Yerushalayim sera labouré comme on laboure un champ, ça va complètement détruire le temple. Et après, il y a une prophétie qu'on reviendra en Israël, on va reconstruire, il y aura des vieux, des vieilles qui vont vivre longtemps au Yerushalayim, vont se trouver de Chotot Yerushalayim, de Chovot Yerushalayim. Donc, il dit, tant que je n'ai pas vu la première prophétie se réaliser, je n'étais pas sûr de la deuxième, maintenant que je vois la première, je suis sûr de la deuxième. Là, ils ont dit deux fois qu'il nous a consolés. Sauf que deux histoires, le rabbi va poser une dizaine de questions. Avant de poser les questions, il donne une introduction. Bien que ces paroles de Gemara sont, on appelle la Agada, il y a une règle qui dit qu'on n'apprend pas de halakhot à partir de Agada. Je résume la suite jusqu'au Hotbet oralement. Donc, cette idée que ne pas prendre d'Alaha et de message à partir de Agada, c'est premièrement dans un cas où il n'y a pas de contradiction entre l'Agada et l'Alaha. Et si on peut prendre des messages d'Agada, on le fait. Et même si on ne prend pas d'Alachot, c'est quand même un événement, c'est une histoire. Et on sait qu'un comportement des habitants s'appelle dans la Gemara Maaseh Rav, eh bien, c'est sûr qu'il y a de quoi apprendre dedans. Il y a des choses qui ont des conséquences dans l'Alaha. Par exemple, dans la deuxième histoire, on fait quand même, ils ont déchiré les vêtements. Ça veut dire que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc la question elle est, qu'est-ce qu'elle nous apprend cette histoire? Voilà. Elle nous apprend quoi cette histoire? Et pourquoi cela il rigole? Pourquoi celui-là avec qui va il rigole? Pourquoi eux ils pleurent? C'est quoi l'idée qu'ils ont dit à qui va une chantane, qui va une chantane? C'est-à-dire, c'est pas une simple histoire. On peut juste dire qu'il y a un message de Haggadah, mais c'est sûr qu'il y a des leçons très importantes au niveau de l'Halakha qu'on doit apprendre de cette histoire. On se trouve dans la page 8 du Kovetz. Le Hot, c'est la colonne de gauche. Et là, maintenant, on va essayer de poser plusieurs questions sur ces deux histoires. Après cette introduction, comme quoi, un comportement de Tanaïm de la Gemara, c'est sûr que ça contient dedans beaucoup de leçons. Il y a des questions à comprendre dans ces histoires, ou même. La première. Maï she'elat Rabbi Akiva mipnima atem bochim. C'est quoi la question que Rabbi Akiva leur a posée à eux? Pourquoi vous pleurez? C'est quoi comme question? Je ne demande pas si c'est évident. Kachel, je pense que la menace de la réussite de Rome qui a détruit Beth Amidash. Et pas surtout lorsqu'on a vu ce qui s'est passé avec le renard. Adavar, ça réveille les horaires avec l'eau tout prière. C'est évident que ça réveille chez nous un deuil et pleurer. Donc pourquoi? Ils posent la question, pourquoi vous pleurez? C'est évident qu'ils pleurent. Deuxième question. Bête. Yeter al-Ken caché. La question, elle est encore plus forte. Ametoua, on décrit dans la deuxième histoire, qui va chez Dieu, la Ratsofim, arrivé à Ratsofim, ils ont déchiré leurs vêtements. C'est au choix de page tout. Chez Gamra Batiba, c'est sûr que Rabatiba aussi l'a fait ça. Et chez Gamra Batiba, il y a Betsar, Beshat Maser, Roban Betanidash. Il y a aussi Betsar sur le Roban. Ma pêche chez la seule femme qui a mis le matin bochim, pourquoi elle pose la question, pourquoi vous pleurez? Lui-même, il a fait kriya, il a déchiré son vêtement. S'il a déchiré son vêtement, il a comme fait un acte lié à un deuil. Donc lui-même, il participe avec eux là-dessus. Pourquoi il leur demande pourquoi il pleure? Si la femme nous demande, une fois qu'on arrivera à ce film, de là, on peut voir le Betamidash, il peut déchirer le vêtement. Donc, il a déchiré. S'il a déchiré, pourquoi il leur demande pourquoi eux, ils pleurent? Troisième question. Le verset qu'il leur a donné, Hazar, eux, ils ont donné Hazar, c'est le mal, que l'étranger qui approche sera puni. Et non, mais d'abord, le Knissa, Hazar, le Kodesh, la Kodeshim, il ne s'agit pas d'une entrée au Kodesh, la Kodeshim. Il s'agit d'une entrée dans de faire un service en Beth Amidash. Eux, ils ont voulu parler de quoi? De Kodesh HaKodeshim, puisque le renard a parti de Kodesh HaKodeshim. Elle dit, « Aya l'aime la vie et ta passion » qu'ils ont dû amener le verset qu'on dit sur le Kohen Gadol. « Aya vol bocholet la Kodesh » Il n'y a pas rentré toute l'année au sein de saint, uniquement pour. C'est bon, le fourrage, le Kohen Gadol ne peut rentrer Kodesh HaKodeshim. Même lui ne peut pas rentrer. Donc pourquoi ils n'ont pas amené ce deuxième verset, qui serait peut-être meilleur. Ils ont plutôt choisi un verset qui dit qu'un Israël ne peut pas faire un service au Beth Amidash. Pourquoi ils ont choisi ce verset? Quatrième question, Dalet. Ma ita trata kasagada tasha Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a dit, tant que je n'aurais pas vu la première prophétie, je ne suis pas sûr qu'on verrait la deuxième. Il a dit comme ça. Tant qu'il n'y a pas eu la prophétie d'Oria, j'avais peur que peut-être ne sera pas réalisée la prophétie de Zechariah. Et si tu as comment c'est possible un doute au niveau des prophéties? Je crois surtout à Pima Marazal, quand Dibo veut dire que chaque parole que Dieu dit ne revient pas en arrière. Page suivante. Quand je vois que tu as la Torah, le Chazabo, même si Dieu l'a mis en condition, dès qu'il a dit qu'il va donner quelque chose de bien, c'est sûr qu'il va donner quelque chose de bien. Donc c'est quand même étonnant que Rabbi Akiva y dise, tant que je n'ai pas vu la première prophétie se réaliser, j'avais un doute sur la deuxième. Ok. La matinée de Rabbi Akiva est une voix qui est un tadé de Kharech. Il parle de la destruction du temple. Il dit, première prophétie, il nous raconte que le temple sera détruit. Il y a plein de versets qui peuvent nous parler de la destruction du temple. Pourquoi il y a même des versets qui disent que Tien sera labouré comme un champ? Pourquoi il n'amène pas un autre verset? Pourquoi il a choisi celui-là? Sixième question. Le chemin porte au Bagmash, Motem, Shel, Kolakanaï, Malalou. Pourquoi on a donné les noms? On aurait pu dire Rabbi Akiva et d'autres sages, d'autres Tanaïm. Pourquoi on a besoin de donner exactement le nom de chacun? On va passer à la prochaine question. Zayin. L'amarat de Noura a chéni à mon chachami, Makiva Nikhamtanu, de l'aube à Noura Rishon. Pourquoi ils ont dit à Rabbi Akiva qui nous a consolé qu'après la deuxième histoire et non pas après la première histoire? C'est-à-dire que dans la première, il ne les a pas vraiment consolés. C'est qu'après la deuxième histoire et les détails de la deuxième histoire, ils ont été correctement consolés. Mais la Shonazé, la Gemara dans cette formule-là, ils ont dit « Akiva Nechantano, Akiva Nechantano ». Pourquoi est-ce qu'on répète deux fois le Lachon? Et c'est quoi cette phrase « à la Shonazé » Ça veut dire que le Marsha dit que par cette double phrase, c'était une manière de dire que maintenant tu nous as consolés sur les deux histoires. Et c'est quand même étonnant, les histoires ne sont pas les mêmes. Une est la réussite de Rome, et l'autre c'est le renard qui sort du Yerushalayim. Tout ça demande de mieux comprendre ce qui s'est passé ici. Voilà, on va résumer les questions. On va reprendre la sikha depuis le début. Avant d'avancer à la prochaine étape. Deux histoires à la fin de traiter Makot, Rabbi Akiva et ses amis, face à la réussite de Rome et face au renard qui sort du Kodesh HaKodeshim. Apparemment, les deux histoires disent plus ou moins la même chose. Eux, ils pleurent et lui, il sourit et chacun pose la question à l'autre. Pourquoi? Rabbi s'est arrêté dessus, ils sont plusieurs questions. La première, quelle est sa question à Rabbi Akiva? Pourquoi eux pleurent? C'est normal. La deuxième, il a surtout fait crier, il a déchiré son vêtement. Donc il accepte cette idée de pleurer. La troisième, Hazar Akadumat, pourquoi ce verset a été pris par les Chachamim? La quatrième, Rabbi Akiva leur a dit, quand je n'ai pas vu la prophétie négative, j'avais un doute sur la prophétie positive. Comment c'est possible? Pourquoi il a mis le verset de Sadé Techaresh? Pourquoi on a cité leur nom de Tanaïm? Pourquoi c'est que dans la deuxième histoire qu'ils ont dit à Akiva Nechanta Nota après la première? Et pourquoi ils ont donné cette double phrase? Gimel. Hot Gimel, nous sommes dans la page 9. Parce que Charles Levert, Rabbi, il met un début de réponse. Des Shnei Amoraot, dans ces deux histoires qu'on vient d'apprendre, on voit un point commun entre la Chita des Tanaïm d'un côté et Rabbi Akiva et Mitzad Hashemi de l'autre côté. Là où ils ont dit dans chaque événement le Lotoshebaz, ils ont l'air de s'arrêter sur l'aspect négatif. Rabbi Akiva a l'air de voir l'aspect positif qui viendra de ça. Donc ça veut dire que Rabbi Akiva a dit le basé. Apparemment, il suit une fameuse chita connue qui est déjà citée dans Brachot, une histoire que tout le monde connaît. L'Olam Yadam Radilama, on doit toujours dire que David Rachman a l'état de vie, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Et c'est comme ça qu'il se comportait. On connaît l'histoire avec le coq, avec l'âne, avec la bougie. Qu'ils ont été attaqués, et grâce à ça, lui, il a été épargné d'un massacre dans la ville où il voulait passer la nuit. Et c'est une chita au nom de Rabbi Akiva. Le fils de Charles Zahir, on pourrait tout simplement dire. Atan, la raison que ces deux histoires sont ramenées dans la Gemara, même si c'était deux histoires différentes, et il dira que les chenèmes héros botam atonaïm, et les chenèmes atonaïm le kouda de chita de Rabbi Akiva, en fait, elle rejoint la chita de Rabbi Akiva, qui dit toujours de voir le présent et de déclarer que même si c'est mal, c'est pas grave, c'est pour un bien. Donc déjà dans la situation négative, toujours il dit le tavari, c'est pour le bien. Ça c'est, on va dire, une idée générale de ce qui est en train de se passer ici. On commence à ressentir que Rabbi Akiva suit sa chita habituelle, c'est toujours de dire tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Rabbi dit, c'est pas si simple que ça. Hot Dalet. On est dans la page 9, Hot Dalet. A piana ta clavin. Allez. D'abord, Asikhuta Shokola Shlosha. Après tout, dans le chasse, on aurait donc trois histoires au nom de Rabbi Akiva. On aurait l'histoire du coq. On a l'histoire de la réussite de Rome et l'histoire du renard. Pourquoi on a besoin de trois histoires? Bête. C'est ça mes règles. L'olam n'est Adam Ragil Lomar. Quand David Rachman, c'est David. C'est une règle au nom de Rabbi Akiva. Qu'un homme doit toujours dire que ce que Dieu fait est pour le bien. Il n'y a pas de marque. Ou clair, c'est un principe général. C'est l'homme qui ne peut pas marque. Il n'y a pas de désaccord. C'est comme la démarche dans le Shukhanaro. Donc l'homme du Tabal, ce n'est pas la logique de Dieu. C'est l'état d'Aim Ram Gamé. C'est certain qu'ils ont discuté là-dessus. Donc, sur la fameuse, sur le fameux principe, ils n'ont jamais discuté, tous les années sont d'accord. C'est vrai que c'est un enseignement que Rabbi Akiva a enseigné, mais ça reste quelque chose que tout le monde est d'accord. Dès qu'on regarde ces deux histoires, déjà dans la première, ils ont l'air d'avoir encore un avis partagé avec Rabbi Akiva. Lui dit sa version, eux disent la leur, ils n'ont pas changé d'avis. Dans la deuxième, dans laquelle ils lui ont répondu, tu nous as consolé, ça l'a bête comme quelque chose qui leur a apporté, mais qui n'était pas leur avis avant que lui leur a donné cette explication. Ça veut dire que, c'est un peu ce qu'on va voir dans cette tira, l'histoire du coq qui a été tué avec l'âne, la fameuse histoire de Rabbi Akiva. L'histoire de la réussite de Rome et l'histoire du renard, c'est trois histoires très différentes, avec des détails très différents. Guimel. Et si on a le Rabbi Akiva, le temps de Chuvatod, le Kudat Chitato. Si vraiment ce Rabbi Akiva était en train de leur dire simplement, c'est qu'il faut toujours dire d'un jour le Torah, il aurait dû leur dire. Mais il n'a pas l'air de leur dire. Il a l'air de leur parler d'autre chose. Il a l'air de leur parler des versets. Il a l'air de leur comparer des prophéties. Il y a quelque chose de plus profond dans cette histoire. Ot, page 10. Les Yuvan, pour comprendre tout ça, avec de ma vie, au livre Agmar de Pache, qui est un point général d'abord à revoir dans cette Gemara. Atam, le Timéad Rabatira, Mipinema, Atem Bochi. Parce qu'il leur demande pourquoi vous pleurez. C'est quoi cette question? Pourquoi vous pleurez? C'est évident, mon cœur. On voit la réussite de Rome, mon cœur. On voit un renard qui sort de côté de Château d'Achille, mon cœur. C'est quoi la question? Non, ce n'est pas une simple question. Ah, j'ai écrit l'olive Kodra, Kachel Shamokol, Amonach, le Romi, l'olive Neken. Si on étudie bien l'histoire, on voit que c'est très pointu. En prenant la route, ils n'ont pas pleuré. Ils savaient qu'il fallait à Rome pour annuler des décrets, ils n'ont pas pleuré. Parce qu'ils ont entendu cette réussite de Rome, ils ont pleuré. Donc avant, ils ne pleuraient pas. Moukhar, ça veut dire, j'ai pris à Tam, loi et Tam, et Maïdia, et Topetman, Chodromi. Ils ne pleuraient pas sur la simple réussite de Rome. Ils l'ont su avant d'aller. C'est pas un malchand d'aller. Les Pyramidou, comme il dit dans la parenthèse, ils sont allés avant pour annuler des décrets. Donc ils savaient qu'on était en Galoute, ils savaient qu'on dépendait de Rome, ils savaient que Rome était puissant, donc c'était quelque chose qu'ils le savaient déjà. Il n'y avait rien qui était là pour créer chez eux une situation d'un coup de se mettre à pleurer. Alors, un petit point à chez nous. Ils savaient que le temps fait du truc. Donc, de qui attend s'ils pleurent, loin est à l'être marrobane. Ce n'est pas sur la destruction du temple. Surtout d'après ce qu'on voit clairement qu'ils ont déchiré les vêtements avant de pleurer. Ah, pourquoi ils pleurent? Parce qu'ils ont vu un renard. Rien chez l'âme rabattive à colonne de gauche. C'est la raison pour laquelle rabattive à l'homme, il dit, mais ne m'attend pas rien. Il ne dit pas pourquoi vous pleurez. Bien sûr qu'il faut pleurer sur la réussite de Rome. Bien sûr qu'il faut pleurer sur la destruction du temple. Bien sûr qu'on pleure sur toutes ces choses. Mais qu'est-ce qui a fait déclencher maintenant de pleurer? C'est pourquoi vous ne pleurez pas jusqu'à maintenant et d'un coup vous vous mettez à pleurer. Voilà. C'est sur ces détails-là que va décider la Israël. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Manatanaïm Rabatiba, ils m'ont répondu. Eux, ils sont dans la réussite et nous, on a le temps de détruire. Ça non plus, c'est pas nouveau. Ah, qu'est-ce qui devait déranger? Pierre Rousseau. On va d'abord dire un mot oralement sur ce hôte, et après on va le faire sur le mot. C'est marqué que lorsque Dieu fait souffrir le peuple d'Israël, qui est déjà terrible, il ne le fera pas par un pays faible. Parce que si le fait par un pays faible, c'est une très grande honte pour nous. S'il y a des raisons pour lesquelles on doit partir en galoute, on doit le faire par le pays le plus puissant, pour ne pas qu'on dise qu'un pays faible nous a attaqué. Si on regarde bien l'histoire, comment les deux temples ont été détruits, c'est pas venu d'un jour à l'autre, c'est pas venu dans la facilité, et c'est pas venu par un pays faible. C'est venu par les pays les plus puissants de l'époque. Et si Dieu l'a fait ça, c'est parce que c'est pour protéger notre kavod et Kiddush Hashem. Donc la réussite de Ron, elle est importante au niveau de notre image, pour ne pas qu'on dise qu'on a été renvoyé d'Eretz Israël par des voisins qui ne sont pas puissants. Le problème, il est qu'on était déjà à quelques années après la destruction du temple. Il n'y avait plus besoin que Rome continue à être un peuple puissant. Après que le temple a été détruit, après qu'on est parti en galoute, Dieu aurait pu leur enlever cette puissance. Donc dès qu'ils ont commencé à approcher Rome, ils ont vu encore dans quel état ils étaient puissants. Là, ils se sont dit, c'est trop. C'est trop, tant plus. Cette réussite de Rome, maintenant, quelques années après, étant trop. Là, ça crée chez eux une situation de peur. Mais on peut très bien arriver à Rome. Rome, c'est le pays qui gère Israël, mais qui ne soit pas si puissant que ça. Pas besoin qu'il continue à être aussi puissant. La même chose, le temple est détruit. On sait, le temple doit être détruit. Il a été abîmé, il a été abîmé. Ça y est, on est des années après. T'as besoin d'avoir un renard qui traîne là-bas. Sans plus. Ce renard qui sort du Kodesh à Kodashim, il n'y a pas d'utilité pour ça. Qu'il fallait qu'on passe en galoute, c'était annoncé. Qu'il fallait que le temple soit détruit, c'était annoncé. Pourquoi on a besoin d'avoir en plus de ça? C'est en trop. Donc ces deux histoires racontent comment ils se sont mis à pleurer, non pas sur la réussite de Rome d'une manière générale, et non pas sur la destruction du temple d'une manière générale. Ils se sont mis à pleurer sur des détails en plus, en trop, qui pour eux étaient déjà au-delà de ce qui est justifié. Et c'est de ça que ces deux histoires y traitent. Le hot vav, dans les mots. Le passage qui commence par le mot etzemadavar. Etzemadavar, c'est Marco Dromi, de Chevet Beter Vashket, de Nen Gashmut Olam, la reine Chibron, l'autre face de sa macromat qui détient, je ne vais pas me mettre. Adraba. A toi que je Marco Dromi, et le Chevet Beter, c'est Tovat Israël. Comme c'est marqué à Levanon, va à Dieu Lipod. Levanon, c'est Beter Mida, je vais tomber par un puissant. Parce que ma quête, quand le fiamme vaèche, on vaèche. Subir une honte, ça dépend vraiment de qui on le subit. Kachon, c'est la tâche à l'alvané de Marfouk Adira Dafka, à Bouchak Tana Abeyota. Si Betamida, je tombe par une puissance, eh bien, la honte est plus petite. Après la parenthèse, Tana Maïta, leur argument et leur question était, pourquoi Rome est encore calme une fois que le temple est détruit? C'est un très grand chiouchem chemin. Sans trop. Et là, qu'un kotok pacheron miracle de Shukuyama Katurvanoba de Yipod. La raison pourquoi le temple est tombé dans la main des Romains. Parce qu'il fallait que ça tombe dans la main d'un puissant. Pour éviter trop de honte pour les Israël. Mais pourquoi maintenant? Gamata, la fèche de Zamigash, Mizezman Krasarou. Ça fait déjà longtemps que le temple est détruit. Il n'y a plus de raison que Rome continue à exister avec une telle puissance. Page 11. Ah, Zadon Moura chez nous dans le deuxième histoire. Oh, comme choix, ils ont vu ce renard. Chiata, mais bête, Kotchia Kodashim qui sort du temps. Et moi, au Bakar, ils ont vu ce qu'on appelle un Chilou Shem Shemaim. Profanation du nom de Dieu et du nom du peuple juif. Akom, Chekatu Boveza, Karabnumat. Un endroit où il s'est marqué, aucun juif peut se rapprocher de là-bas. Jusqu'au point que même le Kohen Gadol rentre là-bas, une fois par an. Et à ce moment-là, il est appelé un zar, comme il m'a chanard. Là, d'un coup, il y a des renards. Comment ça veut dire? Le coup d'attentat a été leur problème. On a mis là, c'est vrai qu'il y a un décret que Beth Amidah sera détruit. Et un décret que les Juifs Yiglou partiront en Galut. La Makaoukha d'Arabe, Khilwa Shem Shekazé. Pourquoi ces éléments en plus, en trop, c'est déjà en trop ça? Et Khilwa Shem Israël Kazé. Et bien, il n'y a rien qui oblige que le royaume de Rome soit si puissant après que Beth Amidah est détruit. Gam le voit à Khouba, tiens, ça veut dire que ça on aurait pu très bien réaliser ce verset par la destruction du temple. Mais pas besoin aussi de Kodesh HaKodeshim. Et surtout pas qu'il y ait un renard qui sort là-bas. Donc devant ces éléments en plus, ils n'ont pas supporté, ils ont pleuré. Voilà. C'est ça qui a créé chez eux une nouvelle situation. Après, qui leur répondra avec Iva? Dans les deux histoires, il leur répond une autre réponse. C'est ce qu'on va comprendre dans les deux histoires. Dans la première histoire, il leur répond « Ot Zayin ». Akar Nanam Rabakim leur répondu « Si déjà pour ceux qui transgressent la volonté de Dieu, voilà leur vie, c'est retourner aux ceux qui font la volonté de Dieu, c'est sûr qu'on sait ce qui nous attend. » Il dit comme ça. « Et même c'est vrai, Yishivata Shalom, il cette réussite de Rome. » L'étape va acheter dans la tranquillité. Pendant que le temple est brûlé, c'est vrai que là, il y a une quantité de Chiloul Hashem plus que ce qui s'est passé dans la destruction du temple. Mais, à l'idée de grâce à cet épisode négatif, grâce à ça, on obtiendra plus tard une plus grande récompense. Et il le déduit. Malheureux retournocas, et c'est le son de la Khatkama Vahama, colonne de gauche. Comment c'est-à-dire, Bakhtra Khatash le Romi, dans cette réussite de Rome, maintenant, Khilu Shem Shema et Meshem Israël, Rabbi Akiva, il a vu à Tov, à Mesouva, Verilézé. Il a vu, en fait, il en a déduit, si Dieu se comporte avec eux comme ça, on peut s'imaginer ce qui nous attend. Alors, dans cette histoire, il ne dit pas parce qu'il y a ça chez eux, voilà pourquoi ça sera chez nous. Il a dit, j'en déduis, je m'imagine un peu ce qui nous attend. Donc, d'un épisode négatif, il en a déduit un épisode positif. Dans la deuxième histoire, un peu plus profond, comme on verra dans la Sikha. La prophétie numéro 1 a été réalisé au plus haut niveau, jusqu'à ce qu'il y ait un choix d'un renard qui sort de Kodesh HaKodeshim. Avez-vous fait au passage une voix de la Goula chez Zechariah qui s'est un bofan nationalé? On résume la suite. Abi dit comme ça. Abakim n'a jamais eu un doute que les deux prophéties vont se réaliser. Il n'a jamais eu un doute que la prophétie positive va se réaliser. La question, elle était à quel niveau? Est-ce qu'au niveau minimum? Au niveau maximum ou au-delà du maximum. Donc, il peut avoir la destruction du temple au niveau minimum, et il peut avoir la récompense et la prophétie positive au niveau minimum. Mais qui va lui dire, regardez, maintenant que je vois que la prophétie négative, elle est au-delà de toute limite, non seulement le temple a été détruit, non seulement il a été élaboré ce champ, il y a même des renards qui sortent du Kodesh HaKodeshim, c'est-à-dire le plus terrible possible. J'en déduis maintenant que la prophétie positive qui nous attend, elle ne sera pas juste un minimum ou un aspect normal. Elle sera au-delà de toutes les limites. Passage suivant. Adech Hatzmich HaShadeh Tadeh Techaresh. Il dit, prenons l'exemple qui a été cité, labourer un champ. Ça peut donner des fois à sa fête de Ganecha, il y aura de la récolte. Ça peut être plus que ça quand c'était chez Yitzhakmé à Charim, son focus. Ça peut être, si tout est clair, des grains de blé énormes. Ça peut être comme ça va de la Tilero, le Nigash Roche, Bokota, celui qui laboure, il rencontre celui qui coupe. Ça va sans arrêt en train de pousser. Donc, il sort offensif de voix à Khurban, à partir de la manière comment le Khurban a été réalisé. Ah ben, qui va la dire que si on a une voix sur la Géoula, sera aussi bon qu'on a finalé au plus haut niveau. Puis le mouvement d'attard, on comprend la raison qu'il a mis ici la nouveau Sion, ça dit ton Hamesh. Qu'est-ce qu'il amène de ce verset? Dès que quelqu'un va dans un champ, il est en train de labourer un champ. Quelqu'un il va dire, mais il est en train d'abîmer le champ. Aïnien de Khalishat Sadeh, le fait de labourer, il n'a que de le calculer à Sadeh, ce n'est pas là pour abîmer le champ, bien que ça l'abîme. Adraba. Akhalisha Mukhakat, on oublie de passer par la partie labourée. Kedesha Sadeh, Tagia, le Shlemuta, pour que ça donne et ça pousse correctement. Et que le champ arrive à sa perfection. Un champ qui ne donne pas de récolte, c'est un champ qui n'est pas parfait. Je veux qu'un champ soit parfait, il faut qu'il donne sa récolte. Je veux qu'il donne sa récolte, il faut le brûler. À l'aider à Khalisha, Nassar, Timicha, Sharaf, Ramkin, c'est un bail. Le Khol, Che Khalisha, Tassadé, Aïta, Tova, Yoter, plus la partie labourée, elle sera meilleure, qu'un titar, de la même manière, sera meilleure. De la même manière, sera meilleur. Azriya va smicha shalachareya, le fait que ça va pousser. Adazer Benyanin est la même chose chez nous. Comment Beth Amikdash, c'est à l'image de la bourrée. Dafka aliyada ou mimena, c'est en passant par cette étape qu'on peut arriver après que ça pousse. Kachara rabbi akiva shachuban igal le tachito, parce qu'il a vu que la destruction est arrivée à son but, jusqu'au niveau du Kodesh Kodashim, il a compris que ça y est, c'est bon, maintenant la Géoula est au plus haut niveau. Autre fait. Et je vais attribuer à d'autres, on peut expliquer les différences dans cette marque que tendra à bâtir les autres. Le mot d'avoir talou de chez la clalie chez Matine de Kama Mitzot. On touche en fait à un point général dans la halakha. Est-ce qu'il faut regarder le présent ou le futur? Je résume un petit peu le trait des têtes qu'on va étudier. Après, on fera quelques passages dans les mots. Alors, ici, dans la question, j'ai le choix de vivre le présent ou d'envisager de tenir compte du futur, un meilleur futur. Un exemple. Quelqu'un qui est devant le somme des aléas. Il sait que si je jeûne, il sera affaibli, c'est pas sûr qu'il pourra jeûner qui pour. Si je regarde le présent, je le fais comme je peux, ou je cède sur un présent pour un meilleur futur. Donc, je jeûne pas à son débaléa pour pouvoir jeûner un jeûne de qui pour qui est minatora. Donc, je cède sur quelque chose pour autre chose mieux, mais plus tard. Je peux de quoi, par exemple, avoir la même question dans des détails du mitzvah et ce qu'on appelle les vidéos mitzvah. J'ai une mitzvah de 4 dinim, 1, 2, 3, 4. En faisant les 3, j'ai accompli la mitzvah. En faisant le 4, j'ai accompli les 4 paramètres de la mitzvah. Je vais céder sur un prat, un détail numéro 4, pour pouvoir obtenir un vidéo. L'embellissement de la mitzvah. Un exemple, les détails de la mitzvah, une mila, il y a beaucoup de détails. Un des détails, c'est une mila de se faire le plus vite possible. Le netzachama, il a 8h30, 8h30, faire la mila. Il n'y aura pas le hido d'avoir du monde. Alors, je vais peut-être perdre le numéro 4 de la mitzvah de mila, qui est de le faire le plus tôt possible, pour le faire à midi, dès que beaucoup de monde viendront. Là, je vais gagner le Hidur Mitzvah. En fait, c'est tenir compte du pour et du contre, des qualités, des défauts, d'un point plus fort plus tard, et céder un point moins important, mais maintenant. À partir de là, on aura compris un peu ce qui se passe. Avec qui va il dit? C'est vrai qu'aujourd'hui, quelque part, la réussite de Rome, le renard qui sort, c'est aggraver la situation de maintenant. C'est un chidou la chaîne plus fort maintenant. Mais si on passe par là, on laboure le champ correctement, on détruit le Beth Amidash plus fort, et les renards qui sortent du Kodesh HaKodashim, c'est douloureux maintenant, ça affaiblit le Kiddush Hashem maintenant, mais par contre, pour plus tard, la récompense sera beaucoup plus grande. Et pour expliquer ça, il est en train de leur expliquer qu'en vérité, les choses sont liées. Plus il y a de la réussite à Rome aujourd'hui, plus ça nous montre ce qui nous attend. Sans que ce soit forcément cause et effet. Non pas en déduire, comme deux choses différentes. Par contre, dans cette histoire de labourer le champ, plus on laboure maintenant, plus sa récolte sera meilleure. Plus on repasse et on laboure, plus ça va pousser meilleur. Plus on l'abîme maintenant, et plus dans 3 mois, il y aura une meilleure récolte. Eux, ils vont dire qu'il ne faut pas trop abîmer le champ. Et lui, il va dire non. On va labourer un peu plus maintenant, mais on aura un meilleur résultat plus tard. Là, malheureusement, il ne s'agit pas de labourer un champ. Là, il s'agit de sujets difficiles. Priez-vous la chaîne. Profaner le nom de Dieu, Kodesh HaKodashim, un renard, c'est surtout. Et en fait, il a dit, c'est vrai que c'est difficile. Mais si on regarde un petit peu, que plus Dieu laboure, et plus Dieu abîme le champ, la terre, l'aspect matériel du Beth Amidash, plus on aura par la suite, il regarde le futur. Donc, c'est deux manières de voir les choses. Comment quoi? Il aura appris autre chose. Il aura appris que c'est plus profond que ça. C'est pas je perds à droite pour gagner à gauche. Il aura expliqué que dans cette histoire du renard, je suis en train de labourer un champ. C'est plus que ça. C'est marqué que lorsque Dieu l'a détruit le temple, en vérité, il devait punir les Juifs. Il a remplacé cette punition des Juifs, ça aurait été beaucoup plus dur, en brûlant la pierre, en brûlant le Beth Amidash. Donc en fait, il y a une lecture plus profonde que Rabbi Akiva est en train de leur dire. Regardez, plus c'est difficile sur l'aspect matériel du Beth Amidash, plus Dieu met sa colère quelque part contre le Beth Amidash, et plus on est parmi eux. Il aura appris à regarder que ce n'est pas un mal pour un bien. On aura appris à regarder que dans ce mal-là, il y a déjà du bien qui est en train de se faire. Dans la suite de la Sikha, Rabbi explique que c'est en fait la grande différence entre les trois histoires. Chacun comprend que si un bâtiment a été dans la forêt avec le coq, il n'avait pas de coq avec lui, il n'avait pas d'âne avec lui, il n'aurait jamais eu besoin de tuer un âne, jamais eu besoin de tuer un coq. Donc en fait, on a éliminé quelque chose, c'est un mal, c'est purement du mal, pour que lui soit épargné, que lui soit sauvé. Donc ce qu'on appelle un mal, pour un bien. Cette idée-là, tout le monde est d'accord. Mais c'est mal. C'est là vient la lacha, que lorsque quelqu'un passe un malheur, il doit faire la bacha, mort, la NMS. C'est un mal, c'est pas du bien. Mais c'est un mal pour un bien. Ça, c'est l'étape 1. Dans la deuxième histoire, ils sont partis à Rome, c'est un mal qui leur a permis de découvrir, grâce à ce mal-là, le bien qui les attend. Donc là, déjà, le mal et le bien sont plus liés. Ça reste quand même du mal. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été vraiment consolés. La troisième histoire, il leur a appris. Vous voyez ça comme mal. Le renard qui circule, vous le voyez comme du mal. Moi, je vous dis que le renard qui circule, c'est du bien. Moi, je vous apprends que plus Dieu est en train de labourer le champ maintenant, plus ce troisième déterminage va se construire correctement. Plus le terrain du Kodesh HaKodashim est abîmé, même si c'est difficile, même si c'est un Chilou Hashem, même si c'est un Chilou Shem Shamayim, même si c'est un Chilou Shem Israël, dedans il y a un début de reconstruction du Beth Amidash. Alors, on va étudier le Hot, on va faire oralement, on rentre dedans dans beaucoup de dîmes. Hot Tet. Et Shema Shemach Lokatam Zoukou Yagam Bishelak Lalit Nesef et Anadat et Sel et Tochan Dina. L'histoire sur Charles de Kamal, Bachol, Pratah, Misa, qu'on peut faire dans tous les détails. Comme on a donné l'exemple, il y a 4 détails dans la Misa de Mila. À l'idée de Yersan, de faire l'autorité de Yersan, mais je n'aurais pas l'idée de le faire à midi avec Borova Marat Menef. Si je l'ai fait l'idée, je vais devoir faire sur 1 des 4 détails. Maman, c'est un test qui est mieux. faire la mitzvah dans les détails, tous les quatre, ou bien faire le hidou. Il donne dans la parenthèse l'exemple de la mila. On passe à la page 13, la colonne de droite. Et chez la zout, lui, à Machlokatam, là, il était dans Machlokatam. Alors, pas chou, tout le monde est d'accord que Dieu va récompenser et bénir Israël. Chez Pshatagou, là, il y aura un grand Kiddush Hashem, un grand Kiddush Israël. À chez la la question, elle est comme ça. Lorsque la royauté de Rome est dans la tranquillité, qu'Hashem y a son choix lorsqu'il y a un renard, il y a un Kiddush Hashem terrible maintenant. C'est un chitaron, un manque dans le Kiddush Hashem maintenant. Le Oumadze face à ça, que plus tard on aura une plus grande récompense avec un plus grand ido, ils sont pas d'accord. Colonne de gauche. Mais la caméra Bangamie, Rabbi Lazar, Rabbi Yeshua, va cacher à Chav, puisque maintenant, il y a un vrai manque dans Kiddush Hashem, qui va se passer après, n'est pas important. Ils pleurent. Ils sont pas contents. Alors, qui va défendre le côté de l'Alaha? Le ido qui vient plus tard, est plus fort que le détail de la mitzvah. Ce qui va se passer plus tard, c'est emporter sur ce qui se passe maintenant. Ça vaut la peine de passer un moment dur pour une meilleure situation de plus tard. Ça, c'est le principe général du mal pour un bien. Ça, c'est le principe général. Il vaut mieux passer par un moment difficile maintenant pour avoir un meilleur résultat plus tard. Ça, ça ne les a pas rassurés. C'est pour ça qu'après cette histoire de Rome, ils n'ont pas changé d'avis. Eux, ils pleuraient, et lui, il était joyeux. Parce qu'ils ne sont toujours pas d'accord. Eux, ils disent, c'est un mal. Un mal pour un bien, on doit dire comme vous le Torah. Mais c'est un mal. Sans un mal, on pleure. Sans un mal, on fait la bacha, bord d'un ami. Page suivante. Page 14. Le chiouv l'oma col David. Sur le principe de Dieu, colle David, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien, eux aussi sont d'accord. Mais ça n'empêche pas qu'on le vit comme quelque chose de mal. Ce qui s'est passé avec le renard, c'est toute une autre histoire. Achidus Benidan dit d'un mot dans cette histoire où il a réussi à le consoler. Rabbi Valora Rakatatosa, Tova, c'était cela, Razman. Il n'aura pas juste dit, il y a du bien qui sortira plus tard. Arad Goufa, il a réussi à leur expliquer. Que le malheur que eux voient maintenant, en fait, on est en train de labourer un champ. Et c'est un début de bien. Plus on laboure profondément, une meilleure récolte en aura. Plus on déracine plus fortement ce qui s'est passé dans le deuxième déterminage, plus on aura le troisième. Plus on passe par les renards du Kodesh Hakodashim, on est en train d'avoir ici un début de quelque chose d'extraordinaire. Ça, pour pouvoir le comprendre, dans la Bible dit, c'est basé sur Mamaraza, sur le verset. Qui l'a fait mettre en matière? Lui, il a complètement mis sa colère sur le bois, sur les pierres, et non pas sur le Israël. C'est pour ça que ce psaume 79 commence pas par un cri, un pleur pour Asaph, mais mise mort. C'est un chant que Asaph, il a dit, et qu'il a vu que le temple a été détruit. Parce que qui l'a fait mettre en matière, il a mis le maximum de sa colère, pour ça qu'il a mis des renards que les chocolatiers. Dans la première histoire avec Rome, on ne voit pas que la réussite de Rome est bien pour nous. On déduit de la réussite de Rome qu'il y a un bien qui nous attend. Alors, ils ne sont pas d'accord. Et ils disent, c'est vrai que plus tard, on aura une meilleure récompense. Aujourd'hui, c'est terrible de voir cette réussite de Rome. Ils n'acceptent pas cette réussite de Rome. Eux, ils pleurent. Et lui, il dit, c'est vrai que la situation est mauvaise maintenant. Mais bon, ça nous permet de comprendre qu'il y aura une meilleure situation plus tard. Lui, il sourit. Eux, ils pleurent. Par contre, dans cette histoire du renard, il leur a expliqué complètement autre chose. Là, il leur a expliqué, il leur a fait prendre conscience que Tion, Sadé, Tefaresh. Il faut comprendre, on est en train de labourer un champ. Parce qu'on laboure un champ, plus tu laboures, et plus tu auras un meilleur résultat, c'est déjà une situation positive. Plus Dieu met sa colère contre la pierre, contre la terre, contre le morceau de terre du Kodesh HaKodashim, en mettant un renard là-bas, tout est évident en plus, c'est ça qui fait que les autres juifs partout sont épargnés. On est en train de créer, de labourer une situation pour construire ce Beth Amidash. Ot Yudalef. Vezé Beshta Shelot Ha'achevot. Dans le titre oralement. Donc on n'est plus tellement sur une question de présent ou de futur. Ici, Rabbi Akiva va leur expliquer que ça, déjà, c'était déjà un présent qui était positif. Oh, tu es bête. Mais Zewata, maintenant, on comprend. Pourquoi dans la deuxième histoire, ils ont dit « Akiva Nechamtam » ou « Akiva Nechamtam » et non pas dans la première histoire. Et là, Rabbi Akiva, dans l'opinion de Rabbi Akiva, sur le lien du renard, « Shua, Shiyata, Mebet, Kocha, Kodashim », il y a un grand chidouche. C'est-à-dire, eux, ils ont vu qu'il y a une situation négative qui amène à pleurer. Rabbi Akiva dit « Lozu bilva chesh listakel ala nyanatov » qui viendra plus tard. Il termine de plus que ça, il leur a dit. Que ce qui viendra plus tard, ça commence maintenant. Ils regardaient ce champ, c'est comme s'il y avait des gens qui étaient en train de labourer pour qu'on puisse pouvoir mettre ici des très bonnes graines. Ça va pousser 100 fois plus, 1000 fois plus que si on le laboure légèrement. C'est difficile de voir cette terre complètement renversée, mais il aura appris à regarder comment ça c'était positif. Et là, il y avait une double consolation. Hamala vaido shebatid. Ils ont déjà très bien compris ce qui leur attend au futur. Mais c'est ça. Ils ont vu dans les paroles de Rabbi Akiva comment ici on était en train de voir clairement ce qui est en train de se voir d'un renard du côté de Chatoshim. En fait, non. C'est l'idée de labourer, de complètement enlever avec des éléments qui sont peut-être négatifs, mais c'est eux qui porteront cette bracha de ce qui va pousser par la suite. Comment il leur a expliqué ça? Ben, il leur a expliqué ça en leur disant ce verset. Dans ce verset, il leur a dit la chose suivante. Il leur a dit, regardez cette comparaison des deux prophètes. Ces deux prophètes sont cités dans le même verset. Là, il y avait la prophétie négative de la destruction du temple et à la prophétie positive de ce qui nous attend à la fin du temple. En mettant les deux dans le même verset, il était en train de leur dire, la destruction du Beth Amikdash n'est pas un élément autre que la construction du troisième. Colonne de gauche. Chadhem, c'est un sujet. Ça, c'est le principe du témoignage. Les deux étaient le même témoin. La prophétie de la destruction, la prophétie de la reconstruction, c'est la même action. Pachez, qu'est-ce qui n'est pas le cas, mais si pour Arishan dans la première histoire, il n'aura pas fait un vrai rapprochement. Il a fait ce qu'on appelle une étude. Il a dit, si déjà je vois la réussite de Rome, je peux m'imaginer ce qui nous attend à nous. Mais peut-être on aurait pu très bien obtenir, nous, une récompense sans voir cette réussite de Rome. Donc c'est pour ça que ça ne les a pas consolés. Lui, il est en train de prendre d'un événement qu'il voit comme mal. Il est en train de déduire un événement joyeux plus tard. Donc il était content en regardant le futur. Mais ça, eux n'ont pas changé d'avis. Ils sont restés à pleurer, n'ont pas du tout été consolés. Par contre, dans cette histoire du renard, il aura expliqué. Tout ce que vous voyez maintenant, c'est comme quelqu'un qui laboure un champ. Tout ce que vous voyez maintenant, en fait, on est en train de préparer la construction du creux de l'éternité. Et là, à ce moment-là, ils ont été consolés. Ot Yud Gimel. À partir de là, il faut comprendre les noms. Rabbi explique que Rabbi Gamliel était un Nafi, donc c'était un Israël. Rabbi Nazar était un Kohen. Rabbi Yeshua était un Lévi. Rabbi Akiva était descendant de convertis. Ni achol lirot l'ifol beloumadze mitzadeh pechakusha. Qui peut voir dans l'élément négatif, dans la transformation du mal, même lorsque le mal est puissant, de voir le bien qui va sortir de ça, ça c'est Rabbi Akiva. Parce que lui-même vient d'une Neshama, qui est passé par des nations. Comme il ramène à la Gemara qui dit que Ovadia, qui était un prophète, il a prophétisé un seul siman dans le Nar, et lui il a prophétisé le fameux verset qu'on viendra Har Esav, Baikal Hashem Amoucha, on le dit tous les jours dans la Tfila. Pourquoi Ovadia? Parce que lui était un descendant d'Esav. C'était un guerre à domi. C'est ce qui est marqué que lorsqu'on veut couper une forêt, il faut prendre le bois de la forêt. C'est-à-dire que Rabbi Akiva qui a vécu, sa neshama, elle vient de nations étrangères, c'est lui qui est en mesure de comprendre et de faire passer un message aux autres Tanaïm, qu'est-ce que c'est la transformation du mal? Qu'est-ce que c'est le sens de voir un élément négatif et de pouvoir dire non, ça c'est positif. Alors comme si on résume tout ça, on a quand même trois histoires différentes. L'histoire du coq, c'est un mal pour un bien, mais c'est pas grâce au coq qu'il a été sauvé. C'est le coq dérangé pour qu'il soit sauvé. Il faut éliminer quelque chose, donc ça paraît mal. Mais grâce à ça, on aurait pu avoir un mal pire. Dans l'histoire de Rome, c'est une étape plus élevée. Il arrive et il voit un scénario d'une réussite de Rome. ça peut être dérangeant, c'est quelque chose qui fait pleurer. Il a réussi à décoder d'ici que ça nous annonce quelle réussite nous attend à nous. Ça ne veut pas dire que parce que Rome réussit, que nous, on aura une réussite. Mais il a appris de cette histoire qu'est-ce qui nous attend. Donc, il ne regarde pas le présent terrible et on regarde un futur meilleur. C'est une autre façon de voir les choses. C'est sa manière à lui. C'est pas la manière à eux. Par contre, plus tard, dès qu'il a vu le renard, il leur dit non. Là, c'est un mal que lui-même est un début de bien. Vous le voyez comme mal. Apprenez à le voir comme du bien. Ça s'appelle la bourrée en chance. Ça s'appelle détruire quelque chose qui ne doit plus exister. On va se préparer pour le troisième métamidage. Et ça contient aussi le message qu'on a vu, c'est que Dieu a mis sa colère dans la pierre et non pas dans l'homme. Il leur a appris à voir les choses positives. Pourquoi lui? Comme on a dit, parce que lui-même est descendant de cette idée de prendre quelque chose des nations, de le transformer. On est dans la dernière page. Comme on a vu dans l'Alaha, est-ce que je regarde le présent ou le futur, ou je regarde un détail ou le hidour? Tamba Kiva qui est un descendant de Guérim qui a commencé à étudier à 40 ans, s'il regardait sa situation toujours du présent, ce qui n'est jamais arrivé au niveau de Rabba Akiva. S'il arrivait au résultat de Rabba Akiva, c'est parce qu'il a su regarder comme c'est l'histoire future. Comme on voit dans le fameux exemple dans lequel il a vu cette fameuse goutte d'eau qui a pu percer la pierre. Ça veut dire que dans le message de la vie de Rabba Akiva, il a su toujours prendre les choses et non pas les regarder au présent, mais les regarder au futur. Si on résume cette tira, c'est un film dans ma côte avec deux histoires dans lesquelles apparemment ça a l'air d'être la même chose. C'est les Chachamim qui voient les choses d'une manière, Rabba Akiva d'une autre, face à la réussite de Rome, ou bien face au renard qui sortait du Kodesh HaKodeshim. Eux, ils ont vu ça, ils ont pleuré, et lui, il a vu ça, il a souri. Dans la première histoire, il n'a pas réussi à l'échanger d'avis. Dans la deuxième histoire, oui, ils ont dit deux fois les Chantanou. Quel est le message qu'on apprend? Donc, le Rabbi avait posé toutes les questions. Les questions, elles ont bien sûr été, dans cette tira, répondues. On va les passer une par une. La première question, c'était de savoir pourquoi il pose la question, pourquoi il pleure. Donc, c'est parce qu'il ne pleurait pas sur l'idée générale, mais sur un détail qu'il venait de voir. Donc, on a compris quel était le détail. Bien sûr que Rabbi Akiva a pleuré aussi, puisqu'il avait déchiré son vêtement. Il n'avait pas pleuré, mais il a déchiré son vêtement. Ensuite, on avait la question du pasouk, c'est un point plus général qu'ils ont amené. Pourquoi il aurait pensé que la prophétie ne soit pas réalisée? Le Rabbi l'a dit, il n'a jamais pensé qu'elle ne soit pas réalisée. Il a juste dit, est-ce qu'elle va être réalisée au minimum ou au maximum? Pourquoi il a amené le verset de Tion Sadeh Techaresh? C'est parce que, en amenant Tion Sadeh Techaresh, il est en train d'expliquer, ce n'est pas un mal pour un bien. C'est du bien, c'est comme ça qu'on fait pousser une nouvelle récolte, et si on veut qu'elle pousse bien, il faut bien labourer le champ. Les autres anaïmes pensent autrement, parce que, pour ainsi que les autres anaïmes, parce que ça représente un Cohen et un Lévi et Israël, c'est tout le peuple juif, ce n'est pas le Rabbi Akiva, c'est un autre détail, il représente les nations aussi, la transformation des nations, et c'est pour ça qu'ils ont dit à Akiva Nihantan, qu'à la deuxième fois, non pas la première, parce que dans la première, il n'a pas réussi à leur changer d'avis, parce qu'il n'était pas en train de leur dire que la réussite de Rome, c'est notre réussite. Il était en train de dire, regardez la réussite de Rome, prenez une leçon qui nous attend à nous. Et eux n'étaient toujours pas d'accord de ça, et ils pleurent, donc ils voient cette réussite de Rome, inutile que Rome soit un peuple qui réussit pour détruire le temps, pour pas qu'on soit tombé dans la main des gens faibles, c'est une chose, mais que Rome continue à réussir avec une telle réussite, sans plus, et ça ils n'acceptent pas. Donc ils n'ont pas changé d'avis dans la première histoire. La deuxième histoire, on a expliqué complètement autre chose. C'est-à-dire, ce que vous voyez comme renard ici, ça c'est Dieu qui est en train de mettre ici sa colère. Et puis s'il en met ici, moi il va l'en mettre sur le peuple juif. Si c'est marqué dans Tehillim à une tête, et c'est pour ça qu'Asaf, il dit mizmor l'Asaf, dès qu'il parle de ces nations qui sont entrées sur l'espace du Beit HaMikdash pour le détruire. Parce que c'est là où Dieu il a mis la colère contre la pierre, contre le bois, et non pas contre les d'Israël. Et plus que ça, il leur a expliqué en disant le verset « Tion Tadé Techaresh », on est en train de labourer un champ, ça va pousser ici quelque chose de merveilleux. Plus on laboure, et plus ça va pousser. Troisième chose, il leur a dit, les deux prophéties, la destruction et la reconstruction, ne sont pas des choses différentes. Un est le début de l'autre. C'est ce qu'on voit dans d'autres tirotes, c'est un midrash qui raconte cette vache qui a donc crié le jour de la destruction du temple, elle crie une deuxième fois, c'est la naissance de Moshiach. C'est pour ça que le jour du Neuf Av, l'après-midi, c'est la naissance de Mashiach, parce que c'est le jour même de la destruction du deuxième Beit HaMikdash. La destruction du Beit HaMikdash est vue comme un élément négatif à nos yeux. Et lorsqu'on reprend cette sikha et on voit la Gemara dans Makot, on voit l'enseignement de Rabbi Akiva, on comprend qu'en vérité, au fond, le jour où Dieu est venu détruire le deuxième, c'était le début de la reconstruction du troisième. Et le fait qu'on parle en galoute aussi, ça peut être vu comme une punition, mais c'est également vu qu'on est parti pour transformer tout le monde entier, le rendre un lieu de Kedusha. Et c'est pour ça que le Rabbi disait et répétait que ce temps de déni qu'on a eu besoin de partir en galoute pour faire ce travail est fini, et donc on est normalement censé être déjà de retour à Yerushalayim pour construire le Beit HaMikdash. Et ce travail qu'on a eu besoin et on a été mandaté pour le faire a été fait, et que ce temps qu'on est en train de passer est en plus. Et ça, que Dieu a un grand nachadroit du travail, c'est une chose. Nous, on doit crier à Adonai et demander à Dieu jusqu'à quand le peuple juif est à l'extérieur de la table de son père et de retourner à la table. Parce que tout ça, ce voyage qu'on est parti, n'est pas une simple punition comme on aurait pu penser. Elle est là pour préparer le troisième Beit HaMikdash. Depuis qu'on est parti à la destruction du deuxième Beit HaMikdash, on est en train de reconstruire le troisième. Ce regard-là vient de Rabbi Akiva, et c'est pour ça que les autres familles de Chachamim, comme les d'Israël, lui ont bien dit, Nichantanu, tu nous as consolés. La consolation vient par ça qu'il explique comment est-ce que les événements qui ont paru être comme négatifs, non, ils font partie de quelque chose de positif. Ça, c'était passé non pas dans l'histoire de Zamzou le Tova avec le coq, non plus dans l'histoire de Rome, mais par contre dans l'histoire du renard. Et c'est qu'à partir de l'histoire du renard, il y a eu cette double consolation. Que Dieu fasse que ce Shabbat Nachamu, qui est appelé Nachamu Nachamu Ami, soit une double consolation pour tout le monde, et qu'on puisse avoir le Beit HaMikdash aujourd'hui, qu'on puisse passer tous ensemble Shabbat Nachamu à Yerushalayim.